Un rythme à deux et du temps pour soi, de la salsa, voilà la musique d'un couple tranquille. Pour Mathilde et son conjoint, leur amour va de soi et tout est évident. Ils voguent paisibles en eau calme et font le choix de fonder une famille. À la naissance de leur première fille, le ciel se couvre et la tempête s'installe. Fatigue intense, nuit hachée, tâtonnements dans leur nouveau rôle de parents sont un terreau fertile aux reproches de l'un et au silence de l'autre. Et doucement mais sûrement menacent de faire chavirer le navire. Dans un récit frais et plein de sagesse, Mathilde nous raconte comment elle et son conjoint ont redressé la barre. Mathilde allume le projecteur sur elle pour observer ses maladresses, met en pause les pluies de reproches, écoute la souffrance de son amoureux et surtout, s'accorde du temps. On ne naît pas parent, on le devient, et c'est exactement ce que lui montrera son conjoint. Le couple de Mathilde n'est pas seul à traverser des eaux troubles à l'arrivée d'un enfant. D'après le docteur Gébérovitch, auteur du livre Baby Clash, on estime que 20 à 25% des parents se séparent dans l'année qui suit la naissance de leur premier bébé. Et ce n'était pas fait exprès, mais je me rends compte que ce nouvel épisode sort peu ou prou autour du jour le plus fécond de l'année. Et oui, le 23 septembre connaîtra historiquement un pic de naissance. Avant d'aller vous affairer sous la couette, j'ai deux demandes et une information à vous communiquer. La première demande, prêtez une oreille au récit de Mathilde pour avoir sa recette. Et la seconde, soutenez le podcast en mettant un commentaire sur la plateforme d'écoute de votre choix, partagez l'épisode à vos proches et abonnez-vous pour écouter les suivants. Et enfin, une information, Mathilde est très active sur Instagram, elle a un compte qui s'appelle Souls of Mama et elle a aussi créé une maison de périnatalité en ligne qui fait intervenir des professionnels de la périnatalité, du développement personnel, de la psychologie, de la santé féminine, et qui a pour but de permettre aux femmes de développer leurs compétences et de se sentir accompagnées dans cette période particulière de leur vie, qui est le postpartum. Elle organise aussi des cercles mensuels pour que les femmes puissent déposer ce qu'elles vivent et sortir de leur isolement. N'hésitez pas à faire tourner cette information aux femmes, aux jeunes mamans qui sont autour de vous ou qui sont en passe de l'être. Je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Mathilde.
Bonjour Delphine.
Je te remercie d'avoir accepté mon invitation. Est-ce que tu peux, s'il te plaît, te présenter et présenter un peu ton environnement familial, s'il te plaît ?
Déjà, je te remercie pour cette invitation. Alors, je m'appelle Mathilde, j'ai 33 ans, je suis en couple depuis maintenant 6 ans. Et nous avons deux petites filles, donc la première qui a 4 ans, qui a bientôt 4 ans, et la seconde qui a 2 ans. Donc on s'est, on a vécu en fait 2 ans ensemble avant d'avoir notre première petite fille. Tout se passait très bien, hein, comme je pense tout couple qui décide d'avoir un enfant, où c'est un choix. Tout se passait bien, on n'avait pas de conflits spécifiques, mis à part en fait des conflits basiques de couple, qui tournait peut-être un petit peu, tu sais, autour de l'intendance domestique. Je fais peut-être un peu plus la vaisselle, je fais peut-être un peu plus le ménage. Ça, c'était déjà un petit peu là, mais c'était très léger. Et puis, on n'avait pas d'autres tensions. Enfin, on n'avait pas d'autres sujets de tension, en fait.
D'accord.
Donc, tout se passait globalement bien. Voilà.
Super, ouais, vous étiez complices, vous faisiez vous partagez des passions communes, des activités, ouais.
Ah oui, c'est-à-dire qu'on était vraiment, si je dois t'en dire plus, comme je te dis déjà, c'était un choix d'être parent, on était très amoureux, on sortait beaucoup, comme tout jeune en fait de moins de 30 ans, enfin, je veux dire comme tout couple de moins de 30 ans qui voyage, on voyageait beaucoup à l'étranger, moi c'était ma passion et puis lui... Il aimait bien aussi, donc je l'ai amené là-dessus. On a pas mal voyagé. En 2 ans, en fait, on a fait déjà quand même pas mal de voyages à l'étranger. On faisait de la danse ensemble. Et on a habité aussi très vite ensemble. En fait, tout a été comme une évidence. C'est-à-dire qu'on s'est rencontrés aussi à un âge où chacun, on avait eu des relations avant. On venait tous les deux d'avoir un emploi stable, alors qu'avant, on allait un petit peu à gauche, à droite. Moi, j'avais pas mal voyagé. Donc, c'était une question de personne. C'est-à-dire que quand je l'ai rencontré, tout de suite, j'ai su ce qu'on allait pouvoir vivre ensemble et ce qu'on allait vivre ensemble. Je le savais. Lui aussi, il le savait. Et puis aussi, il y a cette question de contexte. On allait bientôt sur nos 30 ans tous les deux. Enfin, tout était là pour qu'on soit un jeune couple qui vivent rapidement ensemble et qui ensuite aient envie de fonder une famille.
À quel moment est-ce que c'est venu?
Alors écoute, c'est venu ben, très rapidement, hein, parce que du coup, oui, ça fait 6 ans qu'on est ensemble, on a notre fille qui a 4 ans bientôt, et donc au bout de 1 an et demi, écoute, je sais pas, tu sais, c'est une évidence. C'était une évidence, je le sentais, il le sentait, je lui en ai parlé, il m'a dit ok, on n'a eu aucun problème de conception, donc tout était très fluide, et c'était juste super, on était juste très contents, tous les deux, on a toujours voulu une grande famille, enfin. Voilà, tout était une évidence. La grossesse, pareil, tout s'est très bien passé. Jusqu'à l'accouchement, vraiment pas de conflit spécifique. Vraiment, comme je te dis, juste des petits, voilà, des petits hauts, des petits bas, mais comme tout couple. Mais en plus, comme on était quand même dans une jeune relation, on est, tu sais, au début où il y a encore toute la flamme, il y a encore tout le désir. Enfin, donc du coup, même si tu as des petits conflits, ça se règle très rapidement parce que tu sors, parce que voilà, parce que tu
Oui.
vis des expériences aussi enrichissantes ensemble. Donc voilà, jusqu'à la grossesse, enfin jusqu'à l'accouchement, on était, tout était, le mot c'est fluide. C'était une vraie fluidité, une vraie harmonie. On était en équilibre et on se disait que tout allait bien se passer. En fait, on se posait même pas de questions pour la suite.
OK. Et tu disais justement jusqu'à l'accouchement. Je suppose que l'accouchement constitue un point de bascule et que les choses ont commencé à se gâter.
Alors oui, enfin l'accouchement s'est très bien passé. C'est en fait venu juste après. Comment te dire? Là, ça a été un, ben en fait, ça a été le jour et la nuit. Ça a été un choc total. Alors, je ne sais pas si c'est son attitude ou si c'est mon ressenti. Tu vois, aujourd'hui, après des années d'expérience, des années de vie commune, comme c'était il y a 4 ans, tu vois, les premiers conflits, j'arrive pas à analyser de savoir si c'était vraiment des faits réels ou si c'était mon ressenti parce que j'étais en postpartum et parce que c'était compliqué pour moi et parce que je lui en voulais aussi de pas vivre la même vie que moi. Je lui en voulais aussi de pas être enfermée comme moi, de pas être. C'était. Mais j'avais quand même cette réelle impression de ne pas être épaulée comme je le souhaitais, comme j'en aurais eu envie, comme je l'imaginais. J'avais un schéma dans ma tête. C'était voilà, je venais d'accoucher, j'étais chouchoutée, on prenait soin de moi, moi j'allais m'occuper de mon bébé, mais tout allait se faire aussi de façon 50-50. Tu vois, j'avais vraiment cette notion de voilà, on est un couple moderne, les tâches ménagères c'est du 50-50, on s'occupe du bébé de façon 50-50. Et en fait, ça s'est pas du tout passé comme ça. Et pour moi, ça a été très compliqué. Et donc, les conflits en fait sont venus à partir de ce moment-là. Parce que pour moi, il prenait pas la place qu'il devait prendre en tant que père, mais aussi en tant que conjoint. Et donc là, les reproches ont commencé, non? De ma part, hein, là, c'est complètement assumé. C'était vraiment mon côté, c'était moi qui lui faisais beaucoup de reproches. Et puis, il les comprenait pas, parce qu'il avait l'impression vraiment de s'investir dans la maison, avec notre enfant un peu moins, mais parce qu'en fait, il avait. Lui qui pensait que ça allait être très facile et très fluide de s'occuper d'un nouveau-né, il avait des difficultés. Mais voilà, il avait peur de la faire tomber, il avait peur. Voilà, il avait des craintes quand même par rapport au fait de s'occuper d'un nourrisson. Et puis pour lui, en fait, je savais mieux. Parce que j'étais la maman, je savais mieux. Sauf que moi, j'étais dans un état où je me disais, non mais moi, je ne sais pas mieux, en fait. Pour moi aussi, c'est tout nouveau. J'ai jamais eu, j'ai pas de petit frère ou de petite sœur, je me suis jamais occupée d'un bébé. Tout ça est très compliqué, c'est fatigant. Je n'en pouvais plus, clairement. Hein. Et je me disais que c'était injuste. Je me disais, c'est injuste. Et puis aussi, par rapport à, je veux dire, aujourd'hui, en tant que femme moderne, enfin, moi, je suis née dans les années 90, pour nous, c'est quelque chose d'assez classique. C'est un discours qu'on entend, que tout doit être sur du 50-50, le partage des tâches. Donc, pour moi, c'était une évidence. Et comme c'était pas vraiment, comme je t'ai dit, on avait ces petits conflits avant, mais c'était même pas des conflits, c'était juste, ah, tu pourrais faire un petit peu plus si, tu pourrais faire. Mais c'était basique, hein. C'était pas alarmant. Mais là, quand il y a la venue d'un enfant et que là il y a la fatigue, il y a les nuits, enfin on ne dort pas. Moi j'ai allaité très longtemps. J'ai allaité ma fille pendant 14 mois, donc du coup pendant très longtemps j'ai eu des nuits hachées ou assez courtes. Ben, je me disais mais le lendemain c'est à lui d'assurer. Enfin tu vois. Et lui il prenait pas forcément la place que moi j'avais envie qu'il prenne. Et en fait là ça nous a vraiment plongé dans un état de. En fait au début. Bon, les petits reproches, il les prenait par-ci, par-là. Bon, ok, il essayait de faire des efforts. Et puis, en fait, il y a eu un moment où oui, il ne comprenait même plus que je lui fasse ses reproches. Et il ne les supportait plus. Ce qui a commencé comme des petits reproches et juste voilà, des petits conflits, ça s'est un petit peu transformé en dispute, en réelle dispute. Ensuite, en gros problème de communication, parce que du coup, tu t'empêches de dire quelque chose parce que tu te dis, t'as pas envie de créer une dispute, donc du coup, tu te retiens. Et puis en fait, quand tu te retiens, tu es en train de bouillonner à l'intérieur. Et donc du coup, quand ça sort pas de la bonne façon. Donc l'autre, il sait pas ce qui va lui arriver. Et puis il prend ça en pleine face. Il se dit, mais qu'est-ce qui se passe? Et donc du coup, ça monte. Et en fait, on est arrivé à un moment, et j'arrive même pas à te donner la temporalité, mais on est arrivé à un moment où en fait, on voulait même plus se parler. C'est-à-dire que, voilà, on se croisait dans la maison, c'était froid, c'était tendu. On avait l'impression que chacun ne pouvait rien dire parce que lui aussi, hein, de son côté, tu vois, il avait envie de dire des choses, il ressentait des choses. Mais moi, je ne pouvais pas l'entendre à ce moment-là. Je ne pouvais pas l'entendre, que c'était difficile pour lui. J'arrivais pas. Donc, je me mettais absolument pas. J'avais aucune empathie. Ça, il faut que je le dise aussi parce que c'est vrai que dans le conflit, on ressent toujours plein de choses et on n'arrive peut-être pas à se mettre à la place de l'autre. Là, aujourd'hui, c'est quelque chose que j'ai appris, mais à l'époque, c'était impensable. C'était moi qui allais mal, c'était moi qui étais fatiguée, c'était moi qui en pouvais plus, c'était moi qui faisais tout plus que voilà tout plus que lui. Et donc je te dis voilà, on est arrivé à cette situation où on ne se parlait plus. Quand on se parlait mal, clairement. Enfin c'était je sais pas, c'était pas une communication d'amoureux. Je peux pas dire qu'il y avait plus d'amour parce que ben voilà, là on est encore ensemble et on a réussi à passer au-delà. Mais à ce moment-là, ouais, tu commences à avoir un petit sentiment de haine. Tu commences à avoir un sentiment de Il y a beaucoup de rancœur aussi qui s'installe, beaucoup de ressentiment. Enfin, c'est que des sentiments négatifs qui commencent à s'installer envers l'autre. Tu vis quand même des bons moments, parce que sinon, bah, je pense que tu ne tiens pas, hein, s'il n'y a pas ces bons moments pour un petit peu équilibrer. Mais ils ne sont pas assez fréquents, ils ne sont pas assez intenses pour que la balance, elle soit vraiment à zéro et surtout pas pour revenir à quelque chose de très positif. Donc, on était comme ça un petit peu instable. Et en même temps, il y avait cette conviction, tu sais, un peu, pas traditionnelle, mais si, un petit peu quand même. C'est traditionnel, c'est cette vision traditionnelle de la famille où on se disait de toute façon, on ne va pas se séparer en fait. C'est juste que ce n'est pas possible. Donc, juste on encaissait, on endurait, mais on se disait, on ne se sépare pas. Moi, de toute façon, enfin, lui, de toute façon, de son côté, c'était clair et net. Et moi aussi, moi, j'ai grandi avec une maman célibataire et je préférais endurer tout ce qu'on vivait plutôt que de vivre en tant que maman célibataire. Et pourtant, c'était dur dans le sens où j'avais l'impression d'avoir un colocataire à la maison. Tu vois, on n'avait plus rien d'un couple amoureux. Ça s'est fait, tu vois, petit à petit, mois par mois, le fait d'au début, je te dis, les petits conflits, puis ensuite des disputes, et puis ensuite, pour pouvoir éviter la dispute, bah, on ne se parle plus. Sauf que ne plus se parler, ce n'est pas un modèle de couple dont on a envie. Et en fait, ce que je disais, c'est que je disais dernièrement à une amie, c'est on vivait pas une tempête, on vivait jamais, tu sais, une grosse tempête, mais c'était toujours le ciel gris. Donc c'était même plus des conflits, c'était juste que c'était ouais, c'était gris tout le temps en fait. On se parlait plus trop, quand on se parlait un peu mal. Puis dès qu'il y en avait un qui lançait une pique, bah, l'autre il surréagissait, mais c'était des choses qu'on ne connaissait pas en fait avant d'avoir notre enfant. Et puis tu ajoutes à ça la fatigue, évidemment, parce qu'au bout d'un moment, bah, tu reprends le travail, donc la fatigue des nuits, et puis lui aussi était fatigué. Enfin, tout ça fait que c'est un climat qui devient compliqué à vivre. Et évidemment, à plusieurs reprises, je me suis dit, mais je ne peux plus vivre comme ça, et juste, on va se quitter. Mais heureusement que j'ai cette conviction et cette vision de la famille qui me gardait en fait. Alors ça me faisait du mal dans un sens parce que je me disais, waouh, je me fais du mal à rester dans cette relation. Et dans un autre, je me disais, non, mais j'ai fait un enfant avec cette personne, on va sortir de là en fait. Si on a fait un enfant, c'était un choix, on l'a voulu, on était assez amoureux pour faire un enfant et pour se dire qu'on crée une famille ensemble. Là, c'est juste qu'il y a quelque chose, c'est une phase. Et juste, on doit la passer. Ça fait mal, c'est dur, mais on va la passer, tu vois. J'avais toujours ça en tête. Je me disais, ça va aller. Et puis après, tu sais, t'écoutes les podcasts, t'écoutes d'autres personnes, t'écoutes tes amis, et tu te rends compte que t'es pas le seul couple à passer par là. Voilà. Et du coup, tu te dis, bon, on va essayer de tenir bon.
Et si j'entends ce que tu dis, ce qui ressort beaucoup, c'est les ingrédients d'un cocktail à la noix sont réunis entre le changement d'équilibre. Vous êtes passé de 2 à 3 avec une troisième personne qui ne sait pas parler mais qui s'exprime par pleurs et qui se réveille très régulièrement. Oui. Du coup, qui t'empêche de dormir, qui empêche de dormir l'autre.
C'est un changement d'équilibre total. Alors, plus pour moi que pour lui, finalement. Alors, lui, il vient d'une famille nombreuse. Pour lui, en fait, il m'avait dit, mais tu t'attendais à quoi ? Voilà, c'est vrai que pour lui, il est plutôt pragmatique. Il me dit, mais tu t'attendais à quoi ? Enfin, toute personne sait que d'avoir un enfant, c'est compliqué. Donc, pourquoi tu pensais que ça allait être facile ? Bon, OK. Il y avait cette vision d'un côté qui me permettait de dire, oui, c'est vrai, tu as raison. Et c'est dur et c'est comme ça. Il faut l'accepter pendant un temps. Et puis d'un autre côté, je me disais, oui, enfin, c'est dur, mais c'est quand même plus dur pour moi. Tu vois, je ramenais toujours la chose à moi parce que j'avais vraiment cette impression qui n'est pas qu'une impression non plus. Hein, oui. Parce que quand on a eu des discussions plus tard, voilà, lui m'a dit, c'est vrai que je n'ai pas été assurée sur tel ou tel point. Et il y a des choses qui ont été quand même clarifiées. Mais à ce moment-là, en fait, je me dis juste, oui, OK, c'est dur, mais ce n'est pas toi qui te lèves toutes les nuits. Ce n'est pas toi qui as le corps qui est réquisitionné. Oui. Bon, c'était mon choix, mais ça reste quand même fatigant d'allaiter. C'est pas toi qui gères en fait à chaque fois que l'enfant pleure, c'est pas toi qui change toutes les couches, c'est pas toi. Enfin, tu vois, j'avais ce truc vraiment, je sentais comme une injustice. Et lui, il la voyait pas. Et tu sais, aujourd'hui, même encore aujourd'hui, hein, alors qu'on a eu des conversations et des conversations, j'arrive toujours pas à savoir s'il était vraiment dans 100% dans de l'honnêteté intellectuelle ou s'il était dans le déni, tu vois. J'arrive toujours pas à savoir, parce que je me dis, c'est pas possible non plus que je perçoive cette inégalité aussi intense s'il n'y a pas quand même un fond de vérité, tu vois. Donc, tu sais jamais si l'autre, il n'est pas un peu de mauvaise foi ou si c'est lui parce qu'il a sa vision d'homme et que pour lui, tu sais, c'est sur d'autres actions qu'il a l'impression de vraiment avoir son rôle. Et puis toi, tu te dis, mais toi, tu ne l'attends pas ici, tu l'attends là-bas. Enfin, c'est un petit peu compliqué hein, dans la relation, la dynamique homme-femme, dans la dynamique relationnelle tout court, tu me diras. Mais c'est toujours compliqué de savoir si l'autre est en train d'essayer de nous avoir, tu sais, dans un certain sens, ou si en fait, il est vraiment honnête et que pour lui, il ne perçoit pas en fait tout ce que nous, on perçoit. Et voilà, donc moi, c'était vraiment ce gros sentiment d'injustice. Et puis moi aussi, personnellement, en tant que maman, j'ai vécu un gros chamboulement. Je pense à la limite de la dépression, donc ça n'aide pas dans le couple. Pour moi, c'était très compliqué, hein, la transition entre ma vie de jeune femme qui voyage, qui est libre, même, tu vois, avec mon conjoint, on allait danser, c'était quelque chose qu'on ne pouvait plus faire. Donc, on ne se retrouvait plus, en fait, sur des passions qu'on pouvait avoir auparavant. Mmh. Et donc, des conflits qui peut-être, quand tu es en couple et que tu n'as pas d'enfant, peuvent être, c'est mineur dans ton couple parce que tu vas avoir tellement d'autres moments où tu vas connecter, même par la sexualité, par tu vois, l'intimité, mm-hmm. par le fait d'aller danser, par le fait d'aller au cinéma, par le fait d'aller dans un bon resto et de passer un bon moment. Ben, tous ces petits moments, en fait, on ne les a plus pendant un temps parce qu'on ne peut pas, parce que voilà, on est avec notre bébé et puis on n'a pas forcément de la famille autour, donc on est à 100% dans notre rôle de parent. Et comme je te disais tout à l'heure, du coup, il y a un déséquilibre total. Donc, moi, je pense que le conflit aussi vient de là, c'est qu'on n'avait aucun moment pour nous, donc aucun moment pour rééquilibrer la balance entre le conflit et les moments sympas à vivre en couple, et puis ce sentiment d'injustice totale. Comment dire, je te disais aussi en off, par rapport à la vision du néo-féminisme où vraiment ce qu'on voyait beaucoup sur les réseaux, peut-être un peu moins aujourd'hui, mais quand même il y a 3-4 ans, c'était encore, enfin quoi que tu me diras, ça peut être encore d'actualité, mais beaucoup de man's bashing, en fait, où on parle de l'homme, où on parle de ses, de ce qu'il fait de mal, c'est... Tout ce que je lisais, en fait, ou tout ce que mes amis me disaient, je le prenais aussi pour moi. C'est-à-dire que je me disais, ouais, c'est vrai, l'homme, il est comme ça. Et donc, en fait, ça validait, en fait, tout ce que moi, je pensais de ma relation. Alors qu'en fait, des fois, tu lis des choses, oui, OK, les hommes, tu lis des statistiques, mais en fait, tu ne te retrouves pas forcément à 100% dans cette statistique. Mais comme tu as cette impression que tu es un petit peu dedans, bah, tu te dis, ah oui, c'est une vérité. Et donc, du coup, j'ai la vérité. Toi, ce que tu dis, je ne le prends pas en compte. Et en fait, j'avais l'impression de me monter aussi un petit peu la tête, tu vois, comme ça, de me dire, Non, mais en fait, tu ne te rends pas compte parce que tu es un homme, tu ne fais pas ça parce que tu es un homme. Je ne prenais plus vraiment son identité en compte et la relation que nous, on nouait en tant que deux personnes, mais plus en tant que lui, c'est un homme et moi, je suis une femme. Moi, je suis une femme qui subit des injustices et toi, tu es un homme qui essaye de dominer parce que culturellement, dans notre société, tu domines. Et ça, je pense que ça nous a fait aussi beaucoup de mal parce que j'étais juste à 100% dans ce discours.
Oui, ce que j'entends, c'est qu'il y avait un phénomène de comparaison qui s'établissait entre ce que tu vivais dans l'intimité de ton couple et ce que tu pouvais lire sur l'Internet mondial sur des enjeux de société. Et c'est vrai que c'est délicat sur une période comme celle du postpartum où ben, l'équilibre est à refaire et ça peut être assez fragile. Et puis chacun traverse une période qui est plus ou moins compliquée. C'est pas forcément le moment pour aller confronter pour aller confronter avec ses idées et peut-être aussi avec une certaine perméabilité. Là, je parle à titre personnel, mais ça peut aussi te parler sur la période du postpartum où tu es assez sensible, tu peux être à vif.
Mais c'est ça, et puis en plus, au bout d'un moment, la personne qui est en face de toi, elle entend même plus ce discours. Parce qu'en fait, il a juste l'impression d'avoir. Enfin, lui, c'est ce qu'il avait l'impression, c'est juste d'avoir une féministe qui en fait, ne parlait plus qu'avec des discours et des idéologies et ne parlait plus avec la réalité de ce qu'on vivait dans notre couple. Et donc, en fait, c'est là où je te disais que à force, en fait, on ne s'écoute plus parce que lui n'avait plus envie de m'écouter parce qu'il avait l'impression qu'en fait, tout ce que je faisais au quotidien, c'était lui faire des reproches. Et comme il essayait, je pense vraiment, sincèrement, de faire des efforts, il ne les comprenait pas. Enfin, et je te dis, en fait, ce qui nous a perdus, c'est qu'à la fin, on a fini par plus parler, en fait. C'est qu'on a rompu cette communication. Et c'est là où, finalement, c'est peut-être même là où c'est le plus compliqué. Parce que quand il y a des conflits, il y a encore quand il y a un conflit, c'est qu'il y a envie de résolution. Il y a une envie de résolution quand tu te disputes, c'est pour exprimer des sentiments, mais quand tu ne parles plus, il y a une forme de résignation, en fait, des deux côtés.
Oui, tu décris très bien l'escalade du conflit, qui part d'une incompréhension jusqu'à la polarisation, disons, enfin, chacun est sur sa montagne et en reste avec la mitraillette sur une montagne et la mitraillette en face aussi.
Je le vois totalement. C'était ça, c'était ça.
Est-ce que tu as débriefé avec lui sur comment est-ce que lui avait vécu les choses à ce moment-là, qu'est-ce qu'il ressentait? Qu'est-ce qui se jouait pour lui?
Alors, oui, aujourd'hui, et aujourd'hui, je m'en veux, tu vois. Aujourd'hui, avec le recul, je me dis. De toute façon, aujourd'hui, avec le recul, évidemment, on aurait fait les choses complètement différemment. Enfin, mais bon, c'est ça aussi l'expérience, hein, ça nous permet d'apprendre. Mais tout simplement, il avait perdu confiance en son rôle de conjoint. En fait. Et c'est pour ça que je dis au bout d'un moment, on baisse les bras, dans le sens où on se résigne. Et lui, en fait, mais là c'est après coup, hein, évidemment, maintenant ça fait 4 ans qu'on a eu ces. Enfin, maintenant on a eu tellement de discussions que j'arrive à poser des mots, mais pour lui, en fait, je le méprisais. C'était du mépris qu'il ressentait. Il ressentait du mépris et il me disait, tu te rends pas compte à quel point le mépris de la femme qu'on aime. En fait, peut nous briser et nous amener à avoir plus aucune confiance en tant qu'homme. Alors ça a été très très dur à entendre pour moi parce que je n'ai jamais vu un seul instant qu'il pouvait avoir un manque de confiance ou qu'il pouvait se sentir mal. Alors évidemment, il se sentait mal par rapport au conflit, mais je ne pensais pas que ça allait être si interne et que ça le touchait autant. Et en fait, il m'a dit un mot, et je pense que c'est là où on a eu un gros déclic, et c'est là où j'ai commencé à vraiment travailler sur moi-même et changer la dynamique. C'est lorsqu'il m'a dit, si on inversait les rôles, que tu étais une femme et que j'étais un homme, on parlerait de violence conjugale. Et là, je me suis dit, non, mais au début, je n'ai pas accepté. Au début, je l'ai pas accepté parce que je me suis dit, on se fiche de moi. Là, enfin, il sort un mot valise parce que c'est trop facile et parce que. Et en fait, après coup, bah, tu sais, au début, tu as l'émotion d'abord, hein, donc tu réfléchis pas forcément. Et après coup, je me suis dit, en fait, oui, il faut que je l'accepte, oui, de faire des reproches tous les jours à son conjoint, de lui dire qu'il n'est pas assez bien, de lui dire qu'il ne fait pas assez ceci, même si c'est ce qu'on ressent. Mais de le répéter comme ça au quotidien, au final, oui, je peux l'entendre que ce soit vécu comme une violence psychologique, hein, bien sûr, une violence psychologique, et que ça porte atteinte, du coup, à ta confiance en toi, en tant qu'homme, en tant que conjoint, en tant que père, et que du coup, au bout d'un moment, tu te dises, bon, ben, si je suis si nulle que ça, bon, ben, autant que je ne fasse plus rien, parce que quand je fais des efforts et que j'essaye, de toute façon, on fait encore des reproches, donc juste, voilà, je me résigne et puis je baisse les bras. Et je pense que c'est à ce moment-là où lui aussi s'est mis dans cette carapace. Et je pense que c'est à ce moment-là où, en fait, où on n'arrivait plus à communiquer parce que lui n'avait même plus envie de communiquer. Parce que quand tu te sens méprisé, t'as plus non plus envie d'aller vers l'autre. Enfin, tu vois, c'est. Et ça, mais ça, c'est ça, c'est. On a eu cette discussion bien après. Et c'est là que ça, moi, m'a permis de déclencher quelque chose en moi en me disant, écoute, tu as toujours été dans le reproche, mais. Qu'est-ce que toi tu as fait? Est-ce que toi tu as apporté quelque chose à cette relation avant de faire des reproches? Parce qu'il y a la relation et puis il y a la parentalité. C'est deux autres, voilà, deux choses différentes. Oui, en tant que mère, bah, bien sûr que j'ai été présente à 100% et que je faisais
Ouais.
le travail et que j'aimais voilà, que j'ai aimé mes enfants et que j'ai toujours été très très présente. Mais on est aussi un couple et à la base on était un couple. Et puis sans couple, en fait, il n'y a plus de famille. Donc qu'est-ce que j'ai fait, moi, pour maintenir cette relation de couple? Et en fait, bah, quand je regarde en arrière, je me dis, bah, en fait, pas grand-chose. Et donc, du coup, ce que je lui reprochais par rapport à la parentalité, bah, il aurait très bien pu aussi me le reprocher par rapport à notre couple, et il ne l'a pas fait. Parce qu'une chose qui est certaine et que je peux te dire, et que je lui ai toujours dit, c'est que il ne m'a jamais fait de reproche. C'est-à-dire que voilà, il me prend telle que je suis, il y a des choses qui vont, il y a des choses qui ne vont pas, mais ce n'est pas une personne. Alors, je ne sais pas si c'est une. Les hommes ou les femmes, enfin, je ne sais pas si c'est plutôt les hommes qui sont comme ça, les femmes qui sont plutôt comme ça, je ne sais pas si on peut faire des généralités comme ça, mais.
En tout cas, cet homme-là ne t'a pas fait de reproche.
Voilà. Mais moi, j'ai tendance à faire des reproches et lui, il a tendance à encaisser et ne rien dire jusqu'à que, voilà, jusqu'à que ce soit trop. Mais ou alors, évidemment, ne plus parler et du coup, ben là, on est dans un conflit qui est juste latent et un peu compliqué à s'en défaire. Mais voilà, donc c'est vraiment à ce moment-là où je me suis rendu compte, parce que quand il a mis ce mot-là, je me suis dit, c'est quand même très fort. S'il me le dit, c'est qu'il le ressent vraiment. Et je me suis mis à sa place, je me suis mise à sa place et je me suis dit, effectivement, si j'avais eu des reproches quotidiens sur comment j'étais en tant que mère, ce que je faisais pas, ce que je faisais, je ne sais pas si j'aurais pu tenir aussi longtemps que lui, tu vois. Je ne sais pas si j'aurais pu tenir aussi longtemps que lui dans cette relation. Où tous les jours on me fait des reproches. C'était peut-être pas quotidien non plus, hein, mais c'était régulier. Là, j'ai appris en fait que j'étais très mauvaise en communication. Parce qu'en fait, c'était pas du mépris que je ressentais envers lui. J'ai toujours admiré la personne avec qui j'étais. C'était juste que j'avais besoin d'aide. Sauf qu'en fait, ce besoin d'aide, je l'exprimais en reproche. Continuelle. Et donc, c'était absolument pas une bonne façon de communiquer. Maintenant, je le sais. Mais à l'époque, c'était ma seule façon, en fait, de dire, j'ai juste besoin de toi, en fait. J'ai juste besoin de toi. Juste aide-moi. Mais c'est pas comme ça que je le formulais. Mais c'était en, tu fais pas ci, tu fais pas ça, tu fais. Voilà. Donc, heureusement, les conversations et la communication ensuite font grandir et font s'apercevoir aussi de ses propres lacunes. Hein, en tant que personne, parce que dans une relation, on est deux, c'est toujours très facile de pointer le doigt sur l'autre. C'est beaucoup plus difficile de se regarder et de regarder ce qu'on fait de moins bien, de mal. Mais c'est ce que j'ai fait à un moment donné.
Oui, j'entends que ça a été un vrai point de bascule pour toi hein, de faire un pas de côté et d'entendre ce qu'il avait à dire. Tu disais qu'il a tendance à être taiseux et pas faire de reproches. Là, pour le coup, voilà, quand il s'est exprimé, il s'est exprimé pour bah pour rien quoi. Hein, c'était un beau cadeau qu'il t'a fait là,
Exactement,
s'exprimer dans
exactement.
ses mots. Et je voudrais rebondir sur le fait que c'est quelque chose qui s'est produit avec le temps. Est-ce que rétrospectivement, tu aurais été en mesure d'entendre si la situation avait été inversée, que tu avais été un homme et qu'il avait été une femme, on aurait parlé de violence conjugale. S'il t'avait dit ça, je ne sais pas moi, 3 semaines, un mois et demi après avoir accouché, enfin, donc au début du conflit, est-ce que tu aurais été, à ton sens, en mesure de l'entendre à ce moment-là?
Non, absolument pas. Absolument pas. Déjà, non, non. C'est un non, mais clair et net. C'est, j'aurais, voilà, non, là, ça aurait été, on serait parti en grosse dispute. Ça aurait été très compliqué. Très compliqué parce que je te dis, à ce moment-là, j'étais, alors, pas en victimisation, parce que j'avais vraiment besoin d'aide et j'étais. Je pense que j'étais un petit peu en détresse aussi émotionnelle, physique, enfin j'étais fatiguée. Il y avait tout ça qui fait. Tu sais, tous ces éléments font que tu n'es pas non plus complètement toi-même, tu raisonnes pas comme peut-être tu raisonnais avant. Enfin, t'es complètement. Enfin, moi en tout cas, j'étais complètement chamboulée et donc émotionnellement, c'était un petit peu les montagnes russes. Je n'aurais jamais été capable d'entendre ça. Mais il ne m'aurait pas dit ça non plus parce que. Il l'aurait pas ressenti comme ça à ce moment-là, parce que ça faisait pas assez longtemps. Tu vois, parce que notre conflit, il a duré longtemps. Il a duré au moins 1 an et demi, 2 ans, où c'était un petit peu, voilà, il y avait des hauts, il y avait des bas, mais c'était quand même plus bas que haut. Et en fait, c'est parce que ça a duré dans le temps qu'il l'a ressenti comme ça à un moment où il s'est dit, non, mais c'est pas possible, cette situation, elle ne se rend pas compte. Elle est violente. Enfin, voilà, c'est ça qu'il ressentait, c'est elle est violente psychologiquement envers moi. Alors qu'au bout de, tu vois, de 2, 3 mois, bon, il se dit, bon, allez, peut-être c'est les émotions, allez, j'encaisse, c'est pas grave et ça va passer. Mais en fait, quand tu vois que ça ne passe pas, là, tu te dis, voilà, qu'il y a un problème. Les sujets revenaient sur la table et le conflit revenait un petit peu par période, épisodiquement. Et puis, on a eu, mais il y a quelques mois seulement, vraiment ce point de rupture où là, ça bascule et où je me dis, en fait, j'ai beaucoup de tort et donc, du coup, je vais travailler sur moi et je vais accepter aussi mes torts en tant que personne. Et là où je. Enfin, on va en parler de toute façon après, mais. J'ai jamais été aussi légère émotionnellement, du coup, dans notre relation. C'est, comme tu disais, c'est un cadeau, en fait, qu'il ait réussi à me mettre. Alors, peut-être qu'intérieurement, hein, j'en sais rien, peut-être qu'il ne le ressent pas vraiment comme une violence conjugale, tu vois, et peut-être qu'il a dit ça pour vraiment me faire réagir, mais peut-être qu'il le pense vraiment. Je ne sais pas.
Néanmoins, c'est le message qui t'a envoyé.
Et c'est le message, voilà, c'est le message qui m'a envoyé et c'est le message qui m'a fait réagir, c'est le message qui m'a perturbée et voilà, et c'est comme ça a basculé et je te dis après, le fait d'en fait de se recentrer sur soi m'a permis de, voilà, d'être très, très légère par rapport à tout ce que je pensais, par rapport à. Puis après aussi de faire d'autres recherches, c'est-à-dire que là où avant. Et pendant notre conflit, bah, je ne lisais que de la lecture. Voilà, les hommes sont comme si. Je regardais des statistiques sur les tâches ménagères, sur le. Enfin, je regardais que des statistiques qui allaient dans mon sens. Et en fait, depuis que je, voilà, depuis que je me suis rendu compte que, ok, je pouvais peut-être avoir une certaine forme de violence dans mon discours et dans le fait d'avoir des reproches, eh ben, j'ai regardé des discours inverses. Tu vois, et c'est marrant parce qu'en fait, quand tu écoutes les hommes, et en fait, j'ai commencé à écouter les hommes. J'ai commencé à écouter des podcasts où ce sont des hommes qui parlent, et là, en fait, mais ça m'a ouvert un monde. Ça m'a ouvert un monde et je me suis dit, mais en fait, en tant que femme, j'ai toujours cru que j'avais le monopole, on va dire, de, voilà, de la souffrance ou de la discrimination dans le couple ou, enfin, plein de choses comme ça, assez négatives finalement, en tant que femme. Et en fait, en écoutant les hommes, mais tu te rends compte que mais eux aussi, ils souffrent de leur relation. Eux aussi, ils ont des problèmes qu'ils n'arrivent pas à gérer avec leur femme et qui vivent des situations très compliquées avec lesquelles ils n'arrivent pas à communiquer. Enfin, plein de petites choses où je me suis dit, en fait, j'arrive par le fait, parce que tu vois, j'aurais peut-être pas réussi tout de suite à juste écouter mon conjoint et à entendre tout ce qu'il dit, mais le fait d'écouter, en fait, plein d'histoires d'hommes, plein de scénarios différents m'avait permis en fait de redescendre, on va dire, de mon piédestal de femme qui sait tout et qui a raison sur tout, et de me dire
De
ok.
ta colline.
Oui, mais en fait, exactement, de ma colline avec, voilà, je suis redescendue petit à petit, voilà, de cette montagne pour essayer de grimper hein, vers l'autre montagne justement qui se trouve en face. Et en fait, en descendant de cette montagne, en me disant attends, il faut avoir un petit peu d'humilité. Tu es une personne qui a des défauts aussi, qui n'a pas tout apporté dans cette relation pour faire en sorte que tout marche non plus. Et donc, du coup, qu'est-ce que tu peux, si tu es vraiment honnête, en fait, c'est très difficile d'être honnête avec soi-même finalement, hein, et de se remettre vraiment en question.
Et ça vient heurter son amour-propre et son propre équilibre.
Exactement, exactement. Mais c'est quand j'ai fait ce travail-là et que j'ai dit, honnêtement, enfin, qu'on a eu une conversation vraiment face à face où je lui ai dit, écoute, excuse-moi. Mais c'était des excuses sincères, hein, pas les excuses, tu sais, après une dispute où tu disais, oh, excuse-moi. Non, c'était vraiment, excuse-moi pour toutes ces années. Excuse-moi d'avoir pensé que j'étais, comment dire, que j'avais toujours raison, finalement. Excuse-moi d'avoir pensé qu'en tant que femme, j'étais toujours discriminée et puis tout le partage des tâches était inégal. Enfin, toutes les petites choses sur lesquelles on se disputait, en fait, je lui ai dit, j'avais peut-être pas une vision très claire. Rien que le fait que je lui dise ça, en fait, ça a tout changé parce qu'il me dit, mais juste merci en fait de faire un pas vers moi. C'est, tu vois, c'est là on peut rediscuter en fait. Parce que là, tu descends un peu de ta colline. Et là, on peut avoir des points, en fait, où on se rassemble. Et pas où on va se rassembler que sur mes torts, mais on va se rassembler aussi un petit peu sur tes torts. C'est sûrement des bases de communication très classiques, mais le fait que, tu sais, je concède un petit peu, enfin, que je lâche un petit peu, et lui, ça a permis aussi de lâcher. C'est-à-dire que le fait de dire, voilà, c'est vrai, j'ai agi comme ci, j'ai agi comme ça, j'ai mes torts, j'ai peut-être pas été... très douce comme tu aurais aimé, tu vois, que ta femme soit. J'ai peut-être pas été très attentionnée, j'ai pas fait attention à toi. C'est vrai que j'ai été absolument absorbée par ma maternité, par ma fatigue, et donc du coup, je t'ai oublié. Et ça, je n'ai pas vu que c'était un point important pour toi. Tu vois, c'est le fait en fait de mettre des mots sur mes failles. Ben, ça lui a permis aussi de me dire déjà merci et déjà de et ensuite de me dire écoute. C'est vrai que moi non plus, voilà, j'ai peut-être pas agi à ce moment-là, mais à ce moment-là, j'étais pas en mesure de l'entendre parce que tu me faisais tel reproche, alors que j'aurais pu aller vers toi et dans ton sens, mais ce n'était pas possible. Et en fait, tu détisses un petit peu tout ça et tout ce qui était compliqué, tout ce que tu n'arrivais pas à dire, toute cette non-communication, eh bien en fait, c'est marrant, mais en fait, c'est comme une pelote de laine, là, comme ça que tu déroules et tout est plus léger et là tu arrives à discuter juste parce que sincèrement je lui ai dit désolé. Enfin, et c'est fou parce que je me dis j'étais juste pas en mesure de le faire parce que j'étais pas capable d'avouer mes torts. Enfin, c'était même pas d'avouer, c'était que pour moi je n'en avais pas ou peu ou moins que lui. Et donc c'était toujours à lui comment dire, j'attendais que ce soit toujours lui qui prouve en fait, tu vois. Ça devait être toujours lui qui prouve, qui fait des efforts, qui prouve sa valeur, qui prouve. Comme si moi, je n'avais rien à prouver. C'est pas parce que je suis devenue mère, et c'est pas parce que oui, effectivement, il y a eu des moments de vie où j'ai été quand même plus préoccupée par tout ce qui est le domestique, par tout ce qui est la maternité, ok. Mais c'est pas parce que j'ai fait tout ça qu'on me doit tout le reste, en fait. Mon conjoint a des attentes aussi envers moi. Je n'ai pas su les voir, je n'ai pas su les percevoir, je n'ai pas su les entendre. Il est totalement OK, enfin, il accepte totalement. C'est-à-dire qu'il sait très bien que parce que j'étais dans la maternité et parce que j'étais aussi en grand chamboulement, je ne pouvais pas le voir. Mais du coup, il n'acceptait pas que moi, je lui fasse des reproches. Parce qu'il me disait, moi, je ne t'ai pas reproché tout ça pendant des années, mais toi, tu continues en fait à me faire des reproches. Alors que moi aussi, je vivais des choses et je les gardais pour moi parce que je savais que pour toi, c'était difficile. Il dit, toi, tu n'as pas su entendre que pour moi, c'était difficile de m'occuper d'un nourrisson, c'était pas. Il dit voilà, t'as jamais voulu m'entendre en fait. Et oui, c'est une réalité. J'ai jamais voulu vraiment l'écouter. Donc oui, c'est difficile de se dire hein, qu'on a été si mauvais sur le plan relationnel. Mais comme tu disais tout à l'heure, c'est un cadeau parce que ça permet en fait de se relever en fait.
Oui, c'est difficile. J'ai la croyance en tout cas que c'est pas par perversion qu'on reste campé sur sa colline et puis qu'on attend des choses de l'autre. C'est que ça dit quelque chose sur nous et sur nos besoins à ce moment-là. Et ce que j'entends, c'est que dès le début du postpartum, tu avais un besoin criant de relais avec ce bébé, les tâches domestiques, les tâches ménagères. Un besoin d'amour aussi, un besoin de te reposer, de dormir. Et Et lui, de même, il avait un certain nombre de besoins qu'il n'exprimait pas, mais tu disais tout à l'heure qu'il n'osait pas porter votre fille, voilà, porcelaine du XVIIIe siècle. Voilà, il a mis du temps à prendre ses marques aussi avec ce nourrisson. Il avait besoin de soutien, lui aussi, d'aide, de reconnaissance, d'encouragement pour devenir le papa qu'il était en train de devenir. Vous en êtes venu à reconnaître l'un l'autre que vous aviez ces besoins-là. Est-ce que à la naissance de ta deuxième fille, un autre baby clash s'est produit ou pas ?
Alors oui, effectivement, c'est une question qu'on peut se poser parce que, alors, tu vois, malgré les conflits, je suis quand même tombée enceinte une deuxième fois. On savait qu'on voulait deux enfants. Ça peut paraître un peu bizarre, mais c'est vrai qu'on savait qu'on voulait deux enfants. On n'était pas le couple le plus heureux du monde, mais voilà. On savait qu'on voulait une famille et comme je t'ai dit, on avait toujours cette vision de « ça va passer, ça va passer » et de toute façon, on reste ensemble quoi qu'il arrive. Je sais que certaines personnes n'ont absolument pas cette vision et qui se disent « non, non, moi je préfère être épanouie plutôt que… » comme on dit, hein, « je préfère être seule que mal accompagnée ». Nous, c'était pas notre vision à ce moment-là parce qu'on se disait dans la parentalité, dans les débuts comme ça, on préfère être mal accompagné pendant un petit peu, voilà, pendant cette période parce qu'on se disait toujours que c'était, ça pouvait pas durer, ça serait passager. Tu vois, on y croyait vraiment, hein, on avait vraiment quand même cette croyance qu'on allait s'en sortir.
Ça me fait penser un peu à une séance de sport au lycée. T'es là, tu cours, tu sues, t'en peux plus, t'es tout rouge, tu te demandes quand est-ce que ça va terminer, t'es essoufflé. Et une fois que tu as fini ta séance, tu es content d'avoir fait ce que tu as fait.
Non, mais c'est ça. Et puis, c'est le résultat aujourd'hui, au final. Hein. Je me dis, mais j'y ai pensé très souvent, très, très souvent. Je me dis, mais t'imagines, on se serait séparés, en fait, à cause de ces conflits. Mais je me dis, mais waouh, bah déjà, c'est de l'endurance en fait le couple, hein. C'est de l'endurance, ben voilà, il y a des hauts, il y a des bas, c'est pas ce qu'on voit dans les films, parce que généralement ce qu'on voit dans les films c'est une relation dans les débuts, mais ensuite quand il y a les enfants, quand il y a le quotidien, quoi, c'est de l'endurance et c'est, voilà, c'est un marathon et il y a des victoires et des fois il y a des échecs et puis on sent, voilà, dans tout ça, donc à la naissance de notre seconde fille, écoute, changement total, c'est-à-dire que déjà, il était papa depuis 2 ans. Donc, du coup, c'était un papa confiant. Donc, s'occuper d'un bébé, c'était plus une peur ou une crainte, c'était naturel. Et donc, en fait, très tôt, c'est limite lui qui a plus porté notre fille. Enfin, c'était moi, évidemment, parce que lui, après, il a repris le travail et moi, j'étais toujours avec ma fille, mais dans les moments en fait, où on était tous ensemble, quand elle pleurait, c'était lui qui la prenait, il la portait beaucoup, ils ont fait beaucoup de peau à peau, ça a été complètement différent. Et puis, on a trouvé notre équilibre aussi, parce que quand tu as 2 enfants, y en a un qui s'occupe du plus grand, un qui s'occupe du plus petit. Et en fait, c'est vrai que je m'en suis voulu un petit peu à ce moment-là, où je me suis dit, quand il me disait que c'est pas qu'il veut pas, mais c'est qu'il a vraiment peur, et je me suis dit, waouh, en fait, j'ai même pas été en capacité de l'entendre, parce que moi, j'étais dans mon truc de non, il faut qu'on s'en occupe à 50%, enfin, à 50-50, il faut qu'on partage les tâches de façon équitable. Et en fait, je me dis, mais j'ai été, mais là, j'étais une mauvaise conjointe, en fait, parce que au lieu d'être dans le reproche, j'aurais dû être dans l'accompagnement et dans lui donner en fait envie de poser les bons gestes, de la porter efficacement. Enfin, j'aurais dû, moi, là, prendre le rôle de « Ok, moi aussi, je suis un petit peu, je ne sais pas, et je suis fatiguée. Mais comme je vois que tu es encore plus en détresse que moi, ben, c'est pas grave. Je vais porter le truc et puis je vais te montrer et je vais t'accompagner. » Ben, j'ai pas su le faire. Et j'ai été tout de suite dans le reproche et dans « Oui, tu veux pas faire ça pour moi. Tu veux... » Et après coup, tu sais, je me dis, mais mon Dieu, j'ai été horrible. Mais à ce moment-là, je ne pouvais pas l'entendre. Mais quand je l'ai vu, en fait, avec notre seconde fille, et que c'était juste, en fait, il avait juste besoin de confiance, parce que quand il est en confiance, voilà, c'est juste un super papa. Ouais, je m'en suis voulu. Tu vois, je m'en suis voulu et je me suis dit... voilà. Donc, c'est vrai que l'arrivée de notre seconde fille a apporté un certain équilibre. Un certain équilibre, parce que lui, il a pris aussi sa... Il a eu une autre relation tout de suite avec. Alors, il y a une très bonne relation avec ma plus grande, mais c'est vrai que tout de suite, en fait, il a eu cette relation avec la seconde, très fusionnelle et à limite savoir mieux que moi, tu vois. Et c'était marrant parce que du coup, on inversait un peu les rôles parce que des fois, je me disais, non, mais pourquoi elle pleure? Il me dit, mais non, mais là, elle veut ça. Elle veut... Et en fait, je me disais, waouh!
Sacré progrès.
Mais oui, voilà. Et puis, c'est ça dans la vie aussi. Hein. Des fois, il faut. En fait, il faut savoir se laisser le temps. Et avant ça, je voulais pas l'entendre. Je voulais pas l'entendre, que ce soit dans le couple, que ce soit dans la parentalité. Je voulais pas l'entendre que le temps résout aussi pas mal de choses. Et c'est tout. Des fois, on en attend vraiment beaucoup, beaucoup de son partenaire. On en attend beaucoup de la relation de couple. Et ça peut être pesant pour l'autre.
Et de suite.
Oui, et puis de suite, en fait. Hein. Et puis quand on devient parent, il faudrait tout savoir faire tout de suite. En plus, c'est fou parce que c'est ce que je dis aux mamans maintenant que voilà, je travaille aux côtés des mamans, je leur dis toujours, mais en fait, on n'est pas maman du jour au lendemain, on le devient. Mais au final, c'est ce que j'ai attendu quand même de mon conjoint, c'est qu'il soit papa du jour au lendemain. Et sur ça, j'ai été assez exigeante et ça nous a causé beaucoup de tort. Après, aujourd'hui, quand je reconnais mes torts, je ne suis pas non plus en train de me flageller à 100%. Il y avait aussi un terrain hein, à tout ça. Il y avait des choses qui n'allaient pas. Mais le fait de pouvoir, moi, dire de mon côté, ok, il y a ça qui ne va pas, il y a ça qui ne va pas, et bien lui aussi, il est beaucoup plus zen pour avouer aussi ce qui n'allait pas de son côté, tu vois. Et en fait, le problème, je pense, dans le conflit, c'est que on veut jamais, ou alors on n'est pas prêt à être le premier à descendre de sa colline. Tu vois, c'est un peu, je sais pas si c'est de l'ego qui se joue à ce moment-là, ou si c'est tout le ressentiment qu'on a envers l'autre, ou en fait on se dit qu'on est, c'est à l'autre de le faire, c'est pas à moi, quoi. Enfin, c'est lui qui a plus de choses voilà, à me prouver, et en fait on veut pas être le premier. Enfin, moi j'ai cette impression-là, c'est peut-être pas pareil dans tous les conflits, mais en tout cas, dans notre expérience, c'était un petit peu ça. Je voulais pas être celle qui descende de. Ouais, qui descendent de sa colline, c'est une très belle image. Je voulais pas être la première.
Ne pas vouloir redescendre de sa colline en premier, il y a peut-être quelque chose qui se joue aussi dans la croyance de se dire, bah en fait, si je redescends de ma colline, ça veut dire que j'étais pas légitime à avoir tel ou tel besoin et telle ou telle demande. Et donc, du coup, bah, je veux vraiment qu'il réponde à ma demande avant de répondre aux siennes.
C'est
Alors qu'en
ça.
fait, chacun sur sa colline est légitime à quelque chose. Et là,
Exactement.
quand tu fais le récit de l'arrivée de ta deuxième, bah, finalement, vous avez chacun switché quelque chose, c'est-à-dire que de ton côté, t'as arrêté de faire des reproches ou voilà de faire des petites remarques. Il a eu plus d'espace et de son côté, bah, il avait appris à être papa, ce qui fait qu'il était plus à l'aise et il était plus enclin à participer à la vie de famille et du coup t'apporter le soutien dont tu avais besoin. Donc en fait, les choses se sont
Exactement,
mises en
c'est
place.
ça. C'est ça, exactement.
Bon alors par contre, ce n'est pas un appel, mesdames et messieurs, à faire un deuxième enfant si ça se passe pas bien avec le premier. Pour dire, ouh, avec la
Absolument pas. Et
deuxième,
on l'a
on
pas fait
verra,
pour
ce sera
ça.
pansement,
Non,
non.
non, non, non. Tu as bien raison de le dire et on l'a pas fait pour ça. Et comme je dis toujours, avant de faire un premier enfant, surtout, voilà, attendez d'être dans un couple vraiment apaisé. Parce que même les couples apaisés peuvent avoir des perturbations après. Donc, voilà. Non, non, tu fais bien de le dire. Mais voilà, et après, bon, ben voilà, comme je te disais, après cette période-là, on a eu des conflits qui sont venus et périodiquement, mais il y en avait quand même. Et puis là, je dis, ça fait vraiment que quelques mois, finalement, hein, allez, je vais dire 7-8 mois, où vraiment on a eu ce basculement de légèreté dans le couple parce que on a eu, voilà, peut-être trois grosses discussions en 2023, mais c'est la dernière où j'ai posé mes armes. Vraiment complètement, et je lui ai dit, ok, je te comprends en tant qu'homme, je te comprends en tant que mon homme, je te comprends en tant que voilà que père de nos enfants, et aujourd'hui je peux reconnaître tous les torts que j'ai eus. Je sais où j'ai failli, je sais où je n'ai pas été à la hauteur, et je m'en excuse. Et aujourd'hui, en fait, ben, je vais travailler pour inverser la balance. Et pour pouvoir t'apporter aussi ce dont tu as besoin. Et c'est fou parce que du coup, tout naturellement, il m'apporte aussi ce dont j'ai besoin. Enfin, et là, je me dis, non, mais c'est pas possible que ce soit aussi simple. Tu vois, c'est fou, mais il a fallu du temps. Il a fallu du temps. Donc, en fait, tu sais, des fois, tu regardes juste la discussion parce que, OK, c'est cette conversation qui a fait vraiment basculer et qui, là, nous amène dans une autre dynamique. Mais en vérité, c'est pas cette discussion. Voilà, c'est tout le cheminement, chacun de son côté, qui nous a permis d'avoir cette discussion. La discussion, c'est la transition, mais c'est pas tout le passage, quoi. Il y a avant tout le chemin personnel de chacun, toute l'expérience, toute notre vie aussi commune qui fait que, quand même, au quotidien, on passe aussi des bons moments, hein. C'est pas non plus que, enfin, voilà. C'est pas parce que tu vis des conflits que dire on voilà on rigole,
Ouais.
enfin on vit pas les mêmes moments qu'on avait évidemment quand on était sans enfant, mais on est bien en famille, quoi. Je veux dire, on aime notre famille, on aime qui on est, et on aime notre dynamique, mais on avait ces petits conflits qui faisaient quand même brouiller tout ça. Et là, je pense qu'on n'a jamais été aussi léger. Alors même plus moi, parce que lui, il n'était pas aussi chargé que moi, hein, mais lui aussi, ça lui amène une légèreté du fait que je sois légère. Parce que, tu sais, des fois, c'est plus à l'autre. En fait, finalement, lui, ça va, mais il doit supporter la charge de l'autre. Comme on dit, la charge mentale, parce que oui, ça aussi, ça a été un sujet. Hein, il me parlait de charge mentale. Il me dit, mais en fait, toi, tu as de la charge mentale, mais moi, ma charge mentale, c'est toi. Tu vois, enfin, donc du coup, il disait, moi aussi, j'ai de la charge mentale. Hein, ne pense pas que tu sois la seule à avoir de la charge mentale. Et en fait, voilà, tu peux avoir une discussion, mais je sais que cette discussion, c'est pas juste ça qui a permis de résoudre nos conflits. C'est le temps, c'est oui, c'est les points. Comme je te dis, on a eu trois grosses discussions. C'est la communication, parce que aussi, c'est ça aussi, c'est qu'on a réussi à recommuniquer. Parce que je te disais que pendant un temps, on ne communiquait plus, on ne se parlait plus, on était comme des colocataires. Et en fait, voilà, la tendance s'est inversée et on a réussi à avoir des moments de communication quand ça n'allait pas. Il a réussi lui aussi parce que aussi il y avait cette chose que je ne sais pas si c'est la fierté ou si c'est le fait, tu sais, les hommes peut-être parlent moins de leurs émotions, mais il ne me parlait pas. Donc en fait, il ne me disait pas ce qui n'allait pas. Hein. Lui, il ne me faisait pas de reproches. Mais c'est vrai que quand il a commencé à ouvrir vraiment la discussion, le dialogue, mais c'est là où moi je prenais vraiment en compte et je me disais, ah oui, ok, d'accord, il y a des choses qui ne vont pas chez moi. Et donc voilà. C'est tout bête parce que je vais te dire, c'est la communication et le temps qui nous ont permis de résoudre nos conflits, mais c'est surtout un travail sur moi-même. C'est vraiment ça. C'est OK la communication, mais en fait, tu peux communiquer pendant 10 ans et jamais résoudre vraiment tes conflits. Je pense, tant que tu ne regardes pas, que tu arrêtes de focus sur l'autre et que tu te regardes vraiment dans le miroir et que tu vois ce qui ne va pas chez toi et que tu te demandes pourquoi en fait je fais ces reproches, quelles sont mes attentes. Et puis le couple, mine de rien, ça reste quand même, c'est un contrat, c'est-à-dire que, ok, il y a de l'amour, si on parle vraiment que du côté romantique des débuts, c'est très bien, mais quand tu vis après dans une vie de famille et que tu veux avoir un couple qui dure longtemps, au bout d'un moment, bah, chacun a des attentes et il faut savoir, est-ce que je réponds aux attentes de l'autre, est-ce qu'il répond à mes attentes, est-ce qu'on est sur la même longueur d'onde? Est-ce que le contrat, entre guillemets, évidemment, c'est pas un contrat écrit, mais notre contrat de couple, est-ce qu'il fonctionne? Est-ce qu'on l'a signé tous les deux? Est-ce qu'on est OK par rapport aux attentes de chacun? Et c'est sur ça aujourd'hui où on est aligné, c'est-à-dire que je connais ses attentes, il connaît mes attentes. Des fois, je suis pas, on peut pas répondre aux attentes de l'autre tout le temps, mais le fait de répondre un minimum aux attentes de l'autre et de faire en sorte de vouloir y répondre. Chacun l'un l'autre. En fait, oui, enfin aujourd'hui, maintenant, ça fait des mois, on n'a juste même pas de, on a même pas de petits conflits, on n'a même pas de, c'est fluide. Je pense même encore plus fluide qu'avant la naissance, enfin qu'avant l'accouchement, parce qu'on a dépassé, on est dans un autre type de relation de couple en fait. Tu vois, c'est là où je me dis, waouh. En fait, je comprends les gens qui sont ensemble depuis tellement longtemps et tu vois, et qui te donnent des conseils, et qui te disent, mais non, mais en fait, les conflits, certes, ça vient, mais ça passe. Et puis, c'est aussi les conflits qui te permettent de grandir et de faire en sorte que tu es dans une relation, enfin, ouais, mais tellement solide. Aujourd'hui, je me dis, mais qu'est-ce qui pourrait, vu qu'on est vraiment descendu bas, bon, après, il peut arriver plein de choses, mais qu'est-ce qui pourrait nous détruire aujourd'hui ou qu'est-ce qui pourrait chambouler notre harmonie? Bon, après, peut-être la routine, j'en sais rien, hein, ça fait pas 15-20 ans qu'on est ensemble, mais vraiment dans le domaine du conflit, en fait, passé par tellement d'étapes. Et aujourd'hui, on sait réellement ce qu'attend chacun de son couple, de l'autre, de sa famille. Qu'en fait, on est clair sur tout ça. Le contrat, il est clair, tu vois. On a le côté, évidemment, quand je te dis contrat, ça fait très... c'est pas très romantique, mais après, en même temps, c'est aussi ma vision du couple. C'est pas que de la romance. C'est pas que de la romance.
Oui, c'est ça, c'est un contrat social comme un autre, hein,
Oui.
le couple. Et j'entends que c'est vous avez trouvé du sens. Votre couple a du sens parce que vous savez quelles sont vos valeurs à chacun, quelles sont vos attentes à chacun par rapport à vous, par rapport à l'autre, par rapport à peut-être votre vie à l'échelle de la famille. Voilà, il y a quelque chose de touffu du coup dans ce contrat social et qui a balayé les nuages dont tu parlais tout à l'heure, le ciel
Exactement.
gris. C'est
Exactement.
pas ça qui fait le sens du couple pour toi, c'était pas le conflit. Hein.
Oui, non, c'est clair. Non, non, c'est sûr. C'est sûr. Et là, c'est vrai que voilà, de se concentrer en fait sur juste tout ce qui va bien et puis de relever. En fait, aujourd'hui, mais c'est marrant parce que du coup, ça a changé aussi totalement même mon état d'esprit. C'est qu'aujourd'hui, je relève plus les choses qui vont bien que les choses qui vont mal. Même s'il y a des choses encore évidemment, enfin, je veux dire, c'est évident, tu peux pas être au quotidien, vivre avec une personne et l'adorer 24 heures sur 24, tu vois. Il y a toujours des petits trucs où tu vas dire, oh, enfin, tu vois, mais c'est léger en fait. Et tant que c'est léger et que ça reste juste des. C'est incomparable. Et en plus, aujourd'hui, s'il y a des choses qui ne vont pas à un moment T, je sais l'exprimer, tu vois.
Comment tu l'exprimes
Eh
justement?
ben, par la blague en fait, tu vois, c'est-à-dire que. Je dédramatise. C'est-à-dire qu'en fait, les choses qui te paraissent des fois très oh là là, il n'a pas fait ci, il n'a pas fait ça. En fait, t'as envie de dire, non mais ça va, tu vois. Enfin, c'est-à-dire que si tout va bien dans ton couple, c'est pas ça qui doit créer une dispute, en fait. C'est-à-dire, là, je sais pas, j'ai pas d'exemple concret, mais c'est-à-dire que je vais plus l'amener par la blague. Je vais lui dire, ah, donc maintenant, tu vas agir comme ça. Enfin, tu sais, c'est vraiment. Et puis lui, il va rebondir sur la blague parce que je viens pas avec ma, tu sais, avec ma tête de juge qui est là et qui pointe du doigt. Donc en fait, l'autre, il sent pas que c'est un reproche. Il se dit juste. Et peut-être que ça va juste, en fait, relever le fait que, ah oui, mince, c'est vrai que j'ai peut-être un petit peu abusé sur ce point-là. Bon, ok. Mais. Et en fait, ça passe, tu vois. Et je me dis, waouh! Et là, toutes les choses que je lisais avant, je me dis, oui, il faut savoir communiquer. Il faut. Et en fait, tout est, oui, tout est vrai, mais c'est juste que c'est très difficile de l'appliquer dans sa vie au quotidien, surtout quand on a du ressentiment, hein, quand il y a de la rancœur qui s'installe, je pense que c'est impossible. Mais quand tout ça s'en va, en fait, on se rend compte que les principes de communication, ben, ils sont applicables. Mais il faut pas, enfin, il faut pas qu'il y ait de rancœur, quoi. Il faut pas que. Mais et après, attention, je ne. Comme j'ai l'expérience maintenant de savoir qu'on peut avoir des hauts et des bas, c'est pas parce qu'aujourd'hui ça va super bien que je me dis voilà, la tempête peut revenir, je ne sais pas quand, mais ça peut revenir. Mais je pense qu'on saura gérer différemment. Là, on a appris, on a eu une belle leçon de la vie. Finalement, la parentalité, voilà, nous a emmenés au plus profond de Tu sais, ouais, au plus profond de nous-mêmes et à nous questionner sur des choses qui sont un peu inconfortables, tu vois, sur chacun, sur qui on peut être vraiment aussi, moi notamment, mais lui aussi notamment. Et en fait, quand tu as fait ce travail-là et que tu as balayé, en fait, c'est un vrai développement personnel, enfin, c'est une vraie expérience de développement personnel, qui est l'expérience de la vie et qui, aujourd'hui, nous a complètement soudés.
Merci beaucoup pour ce partage hyper authentique. Je suis très touchée de la capacité que tu as eue à descendre de ta colline et faire preuve d'empathie et d'auto-observation. Enfin, tu vois, tu as vraiment mis la lumière sur toi. Tu disais, je me regarde dans le miroir ou moi j'aime l'image aussi de prendre la lampe torche et regarder qu'est-ce qui se joue pour nous, qu'est-ce qui joue en nous, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on a fait. Ça demande beaucoup de courage parce que ça peut venir heurter de l'estime de soi, des croyances qu'on construit tout au long de sa vie. Et voilà, c'est un très beau cheminement que, que tu as raconté là.
Ouais, ben, après, voilà, je l'ai pas fait toute seule, comme je t'ai dit, c'est aussi le fait d'avoir écouté plein de gens, enfin, mais je me suis inspirée, en fait, je pense que c'était la première fois de ma vie, je me suis inspirée des hommes, du coup, ce que je n'avais jamais fait. Parce que souvent les podcasts, c'est entre femmes ou entre hommes, en fait, c'est vrai, hein. Et le fait d'écouter des hommes, ça m'a permis de, voilà, ça m'a permis d'avoir une autre vision, en fait, du couple, de la vie, de la relation, et surtout, ben en fait, d'avoir, de ressentir de l'empathie, et du coup aussi pour, notamment pour mon conjoint, et juste, ouais, juste tout simplement de redescendre et de prendre les choses avec plus de légèreté. Et d'arrêter en fait de penser que parce que je suis une femme, il me doit tout et que moi j'ai pas et que moi j'ai rien à lui devoir quoi, tu vois, c'est ça qui s'est joué dans notre couple et c'est ça qui nous a permis de nous relever.
Oui, super, merci. Mais j'en profite pour faire un appel aux auditeurs qui nous écoutent. Si vous êtes un homme et que vous avez vécu une période compliquée de baby clash et que vous vous retrouvez dans les paroles de Mathilde et peut-être voilà, dans ce qu'elle raconte de ce qu'a vécu son compagnon, et n'hésitez pas à m'en faire part et je vous écouterai avec plaisir et voilà. On pourra faire un bouclage de boucle sur le sujet baby clash pour avoir les deux versants de la colline. Est-ce que tu veux parler aussi de ton activité? Si ça te dit, te présenter un petit peu ce que tu fais, les accompagnements que tu proposes.
Oui, bien sûr. Bah, de toute façon, comme je t'ai dit tout à l'heure, c'est la maternité qui m'a complètement chamboulée. Et en fait, j'ai vécu... Je pense que toute personne qui se tourne au bout d'un moment vers l'autre, c'est qu'en fait, à la base, il avait quelque chose à gérer chez lui, tu vois. C'est-à-dire que... Tu vois, quand tu vois beaucoup de coachs, beaucoup de gens qui se lancent dans ce type de domaine, c'est qu'à la base, ils ont réussi à... ils avaient un problème dans leur vie, peu importe, hein, que ce soit de santé, que ce soit émotionnel.
À transcender quelque chose.
Voilà, exactement. Et en fait, le postpartum a été la période la plus... Enfin, j'ai pas une vie compliquée non plus, hein, donc voilà, c'est sûr que... tout a été toujours très fluide et donc là c'était on va dire peut-être la première épreuve, c'était vraiment la première fois que la vie me mettait à l'épreuve de façon émotionnelle, vraiment intense. Ça a été tellement dur pour moi, je me suis sentie tellement mal et je me suis dit, comme beaucoup de femmes hein, qui traversent cette période, mais pourquoi on m'a pas dit pourquoi j'étais pas au courant qu'on pouvait passer par ces états. Enfin, juste pourquoi, en fait. Et donc, du coup, j'ai commencé à écrire sur Instagram, sur le postpartum. C'était à l'époque où, en fait, on commençait à avoir des... c'est à partir de 2019-2020 qu'il y a commencé à avoir des comptes Instagram qui parlaient du postpartum. Avant, c'était encore très rare. Avant, Instagram, c'était plutôt la maternité enjolivée, des belles photos. Il n'y avait pas trop l'envers du décor, on n'en parlait pas encore. Mais à partir de 2020, il y a eu pas mal de comptes qui se sont ouverts en ce sens. Et en fait, j'ai commencé mon compte à ce moment-là. Et en fait, pour tout te dire, je l'ai arrêté après pendant un an et demi, presque deux ans. Parce qu'en fait, j'étais dedans, j'étais trop mal pour pouvoir parler. J'étais trop mal pour pouvoir donner des conseils. Dès que j'écrivais un post, j'en pleurais tellement c'était ma vie et tellement ça résonnait en moi. Et donc, du coup, j'ai attendu, j'ai vécu ma vie, j'ai attendu que mon couple aille mieux, j'ai attendu que de retrouver l'équilibre en tant que femme, en tant que mère, pour ensuite réouvrir ce compte et là, vraiment donner des conseils. Enfin, c'est pas vraiment des conseils, en fait, que je donne, c'est... je parle des réalités, et en parlant des réalités, il y a des femmes qui se reconnaissent, et en fait, le fait de savoir qu'elles ne sont pas seules, elles se sentent soutenues, tu vois, mais... je ne vais pas dire que je n'ai pas de conseils à donner, mais je sais très bien et je sais pertinemment qu'elles vont passer cette étape et que cette étape va passer et qu'elles vont aller mieux. Mais c'est très difficile de l'entendre quand tu es dans ce moment-là. Tu n'as pas envie qu'on te dise que tu vas aller mieux. Enfin, ce n'est pas que tu n'as pas envie, ça te donne de l'espoir, mais à ce moment-là, ce que tu as envie, c'est qu'on te comprenne en fait. Tu as envie qu'on entende ce que tu es en train de vivre. Certes, qu'on te dise que ça va être une phase et que ça va aller mieux parce que tu as besoin quand même d'avoir... d'avoir un petit peu d'espoir, mais tu as vraiment besoin qu'on te comprenne, tu vois. Et comme je l'ai vécu, ben, les femmes, elles me comprennent. Et les femmes ont commencé à vraiment m'écrire personnellement. C'est-à-dire que j'ai une boîte de messagerie Instagram qui est toujours pleine de messages. Au début, je trouvais ça vraiment bizarre. Je ne comprenais pas que des inconnus m'écrivent des choses aussi intimes. Et en fait, je me suis dit, mais non, mais pour elles, c'est un sas, en fait. C'est peut-être des choses qu'elles n'ont pas envie de dire à leurs amis parce qu'elles ont envie de garder la face, pas envie de parler à leur conjoint parce qu'elles ont peur de ne pas être comprises. Enfin, et voilà. Et en fait, moi, à la base, je ne suis pas du tout dans ce milieu-là. Enfin, je ne suis pas dans ce secteur. Je ne suis pas dans le secteur de l'accompagnement. Je travaille dans le tourisme de luxe. Je suis spécialiste dans le voyage. Enfin, rien à voir. Et en fait, comment dire, ça me nourrissait, en fait. Je me disais, en fait, je peux pas faire autre chose que ça. C'est-à-dire que là, tu sais, je le vois comme une mission de vie. Je me dis, en fait, j'ai envie de travailler au service des femmes et juste de les accompagner, de les soutenir, parce que c'est une période de vie qui est vraiment chamboulante. Moi, j'appelle ça comme un rite de passage, parce que quand tu es dans les sociétés traditionnelles, tous les rites de passage, donc les passages d'une phase de vie à une autre, sont généralement ritualisés, tu vois. Et nous, en fait, ce passage de vie-là, on ne le ritualise pas trop, parce que voilà, en société moderne faisant, fait que voilà, on a perdu un petit peu le lien, on a perdu l'accompagnement, on a perdu le côté rituel, célébration. Et en fait, j'ai envie de redonner de l'importance, en fait, à ce moment de vie, qui peut-être peut paraître anodin parce que c'est 50% de la population qui le vit, mais quand toi, tu le vis, il est juste super important. Et donc de là, en fait, j'ai réfléchi un petit peu et là, j'ai créé, en fait, une maison de périnatalité en ligne. C'est-à-dire que tu t'abonnes, c'est une adhésion, en fait, à cette plateforme en ligne et tous les mois, en fait, tu reçois des conseils de professionnels. Donc, il y a des ateliers en ligne qui se font en direct avec des professionnels de
Super.
la périnatalité, du développement personnel, de la psychologie, de la santé féminine pour, en fait, juste développer tes compétences, te sentir accompagnée. Je fais aussi des cercles, en fait, une fois par mois, on fait un cercle, donc c'est vraiment un moment d'échange pour que les femmes puissent déposer. Et en fait, ça me permet, ben, vraiment, en fait, d'offrir une solution. Alors, c'est pas la solution, il y a plein de solutions, mais c'est une solution qui permet, pour certaines femmes, ben, de se sentir accompagnées et de se sentir un petit peu moins seules. Je le fais en ligne actuellement. Mon rêve, ce serait vraiment d'ouvrir après quelque chose en physique. Mais pour l'instant, je le fais en ligne parce que je me rends compte aussi que tu as plein de femmes qui vivent dans des petites villes, dans des petits patelins. On n'habite pas toutes à Paris, Bordeaux ou Marseille. Et donc, en fait, tu as plein d'endroits où, en fait, tu n'as juste pas vraiment de solution. Et donc, ces femmes-là, elles sont contentes de trouver une communauté en ligne, de pouvoir se dire, bon, en fait, je ne suis pas seule. Et à côté, bon, j'ai aussi d'autres choses, mais ça, c'est vraiment très personnel. C'est parce que je suis fan des herbes médicinales et donc du coup je propose aussi des herbes médicinales pour les femmes en postpartum, mais ça c'est encore un autre champ, mais vraiment le plus gros de mon travail c'est la maison périnatale que je viens d'ouvrir.
Génial, super. Et si les auditeurs ou les auditrices veulent te contacter, est-ce que tu as un canal favori?
Instagram, c'est très voilà, c'est très Instagram. En fait, il me trouve de toute façon, on marquera, mais voilà, il me trouve sous le pseudo Salse of Mama. Et puis sinon, il y a mon site internet qui s'appelle pareil, salseofmama.fr. Mais là où moi je suis active et où la réponse va être la plus directe et puis la plus naturelle, ça va être via la messagerie Instagram. Je réponds généralement. Alors, des fois, je mets sur pause et je ne peux pas répondre à tout parce qu'en fait, c'est. Voilà. Et puis, c'est des vrais messages, hein, parce que souvent, c'est des femmes qui déposent des choses. Donc, je ne peux pas répondre forcément tous les jours, mais je réponds. Et voilà. Et puis maintenant, il y a la maison périnatale. C'est-à-dire que maintenant, je délaisse un petit peu. Tu vois, avant, les
Super.
femmes m'écrivaient, mais maintenant, je leur dis, écoutez, il y a cette maison-là et je pense que ça va être un accompagnement complet pour vous.
Ouais. Un super relais dans lequel
Tout à fait.
trouver de la
Tout à fait.
reconnaissance, de l'amour, de la douceur. Merci beaucoup Mathilde pour ces échanges.
Mais merci à toi.
C'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser une note et ou un commentaire sur les plateformes d'écoute de votre choix. Également à partager le podcast autour de vous. C'est comme ça que vous pouvez m'aider à le faire connaître et à le développer. Et si vous voulez voir un petit peu l'activité de Mathilde, je vous ai mis en note de l'épisode son compte Insta et son site internet. Donc vous pouvez lui passer un petit coucou, surtout si son récit vous inspire. À la prochaine.